Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6h avant minuit, c'est l'émission quotidienne d'info locale de Syllab, radio rennaise à écouter sur le 88.4 FM ou en DAB+. Du lundi au jeudi à 18h, d'octobre à juin, l'équipe de la rédaction de la radio sauvage décrypte l'actu de chaque jour, 6h avant le lendemain. Cet été, on vous propose de réécouter les reportages de nos journalistes de la saison radiophonique passée. Prêt et prête à reculer vos montres, retour au mois de mai et juin.
M2PF ou Maison de la Prévention et Protection des Familles, une unité de la gendarmerie centrée autour du suivi et de l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales, avec en son sein des enquêteurs et enquêtrices et des gendarmes spécialisés en prévention. Voilà l'équipe de gendarmes qu'a suivi Eva pendant une journée. Au programme, une matinée en prévention dans une école à Orgères avec les militaires Lucie et Thomas, puis une après-midi rencontre avec la commandante de l'unité, la major Emmanuelle Leroux.
Là, ici, c'est merci. Se faire un câlin à soi-même. Là, c'est toucher les parties intimes. Ici, c'est imiter la sirène du camion de pompier.
Lucie, une des deux gendarmes en prévention, liste aux enfants de maternelle des comportements.
Est-ce que toucher les parties intimes est un jeu ? Oh oh ! Ce n'est pas un jeu !
Tous ensemble, les élèves de moyenne section apprennent ce qu'est un jeu et ce qui n'en est pas. Et avec ça, les parties intimes du corps.
La partie qui sert à faire pipi, chez le garçon, on appelle ça le pénis. Et une fille, ça s'appelle la... Vas-y. Alors la zézette, ça c'est un surnom. Les docteurs appellent cette partie-là la vulve. Si une personne veut jouer avec des parties intimes, il faut tout de suite lui dire « Arrête, ce n'est pas un jeu !» Et il faut vite aller le dire à un adulte de confiance.
Dans une autre salle, chez les grands de CM2, Asiatou apprend les dangers des écrans.
Tu vas tous les jours sans t'arrêter sur ton téléphone et que quand tu vas dehors pour jeter un coup d'œil, tu remarques que tout a changé, sauf toi.
Moins d'interaction avec les autres, moins de concentration à l'école, de potentielles conséquences sur les enfants qui utilisent les réseaux sociaux.
À l'intérieur de nous, on a un espèce de volume de motivation. Alors si je vais aller sur les réseaux sociaux, je regarde des charts, etc., etc., bah en fait, j'ai plein de motivation qui s'en va.
Une baisse de motivation pouvant amener à l'addiction. Les enfants, comme Milan ici, ont compris les propos du gendarme Thomas.
Comme il a dit, de respecter le PGI, les contenus à notre âge, c'est mieux pour nous et pour notre cerveau.
Avec les écoles directement, en partenariat avec des associations départementales ou avec les unités d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger.
La protection de l'enfance, c'est vraiment un sujet commun à tous et le travail en interdisciplinarité, il est nécessaire. Si chacun, je le répète, reste dans son coin, on n'avancera pas et ce ne sera pas au bénéfice de l'enfant.
Des interventions de prévention principalement pour les plus jeunes, Emmanuel Leroux fait passer un message.
Pour les plus grands, je leur dirais qu'ils n'hésitent pas à passer nos portes, à passer par le téléphone ou par une application qui existe et qui marche très très bien, c'est Ma Sécurité. Et ils peuvent chatter en direct avec un gendarme ou un policier en fonction de leur lieu de résidence. Donc ils n'hésitent pas vraiment à contacter les institutions qui sont vraiment là pour les aider.
La Maison de la Prévention et Protection des Familles, située près du métro Clémenceau, prend en charge les victimes de violences intrafamiliales du département d'Ille-et-Vilaine, de la zone de compétence de la gendarmerie. En zone police, le commissariat prend en charge ces victimes, mais également des associations nationales ou départementales comme SOS Victimes, AIS 35, Enfance et Partage, Alexis Danane ou encore la Maison des Femmes de Rennes, qui travaillent elles aussi au profit des victimes de violences intrafamiliales, que ce soit dans les zones police et ou gendarmerie.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Le mois dernier, l'eurodéputé et juriste de formation Rima Hassan tenait une conférence à Rennes 2 aux côtés de Raphaël Maison, professeur de droit public à l'université Paris Sud. Son intitulé « Palestine, le droit international à l'épreuve de l'impunité ». De quoi agacer la droite locale, élu républicain, centriste et macroniste, ayant publié un communiqué demandant à la faculté d'annuler la conférence. L'événement a bien eu lieu et Cyriane s'y est rendue pour discuter accès à l'information et mobilisation étudiante avec Rima Hassan.
On a eu de la chance.
Ça se presse devant l'amphibie 8. Dans la file d'attente, il y a de tous les âges, mais principalement des étudiants et étudiantes. La Palestine, c'est un sujet qui mobilise dans les universités, et ce pour plusieurs raisons, d'après Rima Hassan, la conférencière de ce soir.
Je crois que la cause palestinienne, elle a beaucoup été portée par les mouvements étudiants parce qu'ils ont eu accès justement à tout ce qui a été partagé et documenté par les Palestiniens, parce que ça a essentiellement été documenté par leur téléphone et diffusé sur les réseaux sociaux. Je crois aussi que les mobilisations étudiantes ont toujours historiquement été les pionnières sur des questions internationales et même sur des questions nationales. Mais si on se réfère à la guerre du Vietnam, si on se réfère à la question de l'apartheid, c'est quand même souvent parti justement de ces mobilisations étudiantes et elles imposent un rapport de force qui est extrêmement important dans nos sociétés. Et les mobilisations étudiantes, elles sont assez efficaces parce qu'elles se centrent justement sur leur périmètre et donc notamment sur la question du boycott académique. Et donc le rapport de force de la société civile, pour moi, est nettement plus intéressant à investir que d'aller quémander de quelques politiciens des prises d'opposition qui, de toute façon, je pense, ne viendront pas parce qu'ils sont mieux informés que vous de ce qui se passe. Ceux qui sont au Parlement européen, ceux qui sont dans les commissions, ceux qui sont au Conseil, ils sont mieux informés que nous tous de ce qui se passe. On leur livre très régulièrement les rapports internationaux, etc. Donc, ils sont au fait de tout ce qui se passe et donc c'est aussi en pleine conscience qu'ils ne prennent pas des décisions qu'on attend d'eux.
À la sortie de l'amphi, Tamari et Gabin, élèves en licence d'histoire de l'art, m'explique comment Yael s'informe sur le conflit.
Malheureusement, je pense, mes informations, c'est ce que j'ai en fait sur mes réseaux sociaux. Je trouve que ça nous permet d'être face à une information qui est amenée par des personnes concernées. Après, j'essaie de suivre des personnes où on voit que sur le sujet, ils savent sourcer, etc.
Moi, je pense que aussi, malheureusement, mes sources sont trop limitées. Je regarde un peu la télé, mais on sait que malheureusement, les informations à la télé, elles sont quelque peu filtré. Mais sinon, à côté de ça, j'essaye de me renseigner forcément sur les réseaux sociaux avec quelques comptes connus et quelquefois le journal aussi. Mais ça reste toujours des infos qui sont trop filtrées. Enfin, ça reste seulement des infos essentielles et les faits importants, peut-être, ils sont trop peu méconnus.
Pour Rima Hassan, c'est évident. Si l'on veut comprendre la situation actuelle, il faut avant tout raconter son passé, détaillé tout au long de la soirée.
Merci Cyriane pour ton reportage. Pour approfondir le sujet, l'entretien en version longue avec Rima Hassan sera bientôt disponible sur le site de la radio.
6h avant minuit.
6h avant minuit.
Depuis un peu plus d'un mois, le collectif Les Tas de Fêtes organise le passage d'un camion douche dans le parc de Maurepas. Le but, offrir aux personnes exilées et sans abri l'occasion de prendre soin d'elles. Anthony s'y est rendu.
Malgré les objectifs du millénaire pour le développement lancés par l'ONU durant les années 2000, la pauvreté est toujours bien présente dans nos contrées. Des sans-abri qui n'ont pas un louis d'or pour s'alimenter, ou encore des réfugiés de guerre qui souffrent des horreurs de la guerre. Mais savez-vous qu'un camion douche fait la navette 2 fois par semaine? Et oui, chaque mercredi et dimanche, il vient en aide à un camp de migrants qui se situe au parc de Maurepas à Rennes. Voici Faustine Suski, membre du collectif de Tas de Fêtes, qui va nous parler des missions du camion douche.
Alors le camion douche, il permet aux gens, on vient directement là où les gens sont en tente, pour que les personnes puissent prendre des douches, éventuellement si elles en ont envie. Voilà. Et après, nous, on a d'autres missions, on a des missions d'urgence, où des fois on finance, on aide des gens financièrement. Puis on essaye d'accueillir des gens aussi dans notre campagne.
Voici Mohamed Camara, un habitant du camp, qui va nous faire un petit témoignage.
C'est bonne chose pour amener camion de douche ici pour se doucher. Parce que ici, il n'y a pas l'endroit où on se lave. Du coup, de temps en temps, on peut se laver là-bas. Du coup, si on a envie de laver, il faut qu'on sorte en ville. Et manger aussi, c'est très bon. Parce que nous, on est là, il n'y a pas à manger. Du coup, s'il y a à manger, c'est très bon. On peut manger. Ouais.
L'Observatoire des inégalités publie depuis peu une carte sur l'état de pauvreté en France. Cette carte indique également le nombre de ménages pauvres sur l'Hexagone. Ainsi, plus les carreaux sont clairs, moins la pauvreté est présente. A l'inverse, plus les carreaux sont foncés, plus la pauvreté est présente. Il vous suffit donc d'aller sur le site de l'Observatoire des inégalités.
Merci Anthony. Et pour faire perdurer cette initiative, le collectif L'État de Fête appelle aux dons de produits hygiéniques, dentifrice, brosse à dents, protection périodique. Pour les donner, vous pouvez écrire à l'adresse letatdefete@framagroup.org.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Jeudi dernier, au stade Robert Poirier, c'était les Olympiades des EHPAD. Un rendez-vous sportif, convivial et intergénérationnel à Rennes. On a assisté à l'événement.
C'est le jeudi 22 mai qu'avait lieu la 11e édition des Olympiades des EHPAD au stade Robert Poirier à Rennes.
L'événement aux activités adaptées regroupait la résidence Autonomie Le Colombier, 6 EHPAD du Centre communal d'action sociale de Rennes qui organisait l'événement, ainsi que des jeunes du lycée Bréquigny.
On rencontre Véronique Frineau, chargée des activités.
Alors moi, ça va faire 10 ans que j'encadre cette journée. Alors en fait, l'objectif, c'est de continuer à se mouvoir le plus longtemps possible. Par exemple, je vais prendre l'épreuve du biathlon qui regroupe deux épreuves, un passage d'obstacle et un lancer sur cible. Il y a certains résidents qui toute l'année me parlent des Olympiades. C'est un événement qu'ils attendent et auquel ils sont attachés. Il y a vraiment un esprit de compétition.
Un entrain confirmé par les résidents. Certains ne peuvent pas participer, mais viennent quand même soutenir leurs camarades.
J'aime bien. Oui, on a gagné l'année dernière déjà, ouais.
Ah, super.
Et ben, on revient cette année, peut-être pour gagner, je sais pas, on verra bien. Mais on est bien parti en tout cas. On a fait basket, j'ai marqué 35 paniers en une minute. Et ben, tu m'en recordes l'année dernière.
C'est la première fois que je viens vraiment. On est avec eux, hein.
Chaque atelier est encadré par les lycéens dont l'animation s'inscrit dans leur parcours de formation.
Ça s'inscrit complètement puisqu'ils sont en bac pro animation enfance personnes âgées. Et c'est vraiment mettre en situation les élèves dans des situations concrètes.
Lycéens qui nous parlent de leur expérience.
Je m'appelle Valentine Milon et je suis en première animation enfance et personnes âgées au lycée Bréquigny.
Je m'appelle Léo Vanegg et je suis en terminale bac pro animation au lycée Bréquigny aussi.
Il y a une bonne ambiance et ouais, franchement moi j'adore.
Bah, pour moi, très bonne expérience.
On apprend beaucoup plus sur le terrain et puis là, c'est vrai qu'on rencontre des personnes âgées, on apprend à faire. Là, avant de venir ici, on s'est entraîné dans une EHPAD. On est allé deux fois chez eux. C'est vrai que le lien intergénérationnel, comme ça, il faut le tenir.
Et ouais, maintenir des projets comme ceux-là toute l'année, c'est vraiment super pour nous et pour eux. Et lutter contre l'isolement.
Christophe Fouillère, adjoint au maire délégué au vieillissement, nous parle de l'importance de cet événement pour la ville de Rennes.
Ces Olympiades, elles se sont installées dans le paysage de nos établissements et c'est un événement qui est très attendu par les résidents. Systématiquement, nous cherchons à avoir de l'intergénérationnel. Et donc pour moi, en tant qu'élu, c'était important d'être là parce que ce sont nos agents qui organisent cette journée et puis parce que ce sont nos résidents que nous accueillons à l'année. Et c'est toujours un moment très sympathique pour échanger avec eux dans une ambiance vraiment conviviale.
Avant minuit.
Direction Rennes et son esplanade Charles de Gaulle où un mystérieux bus a posé bagages. Allez, venez, je vous emmène. On est le mercredi 4 juin, j'arrive sur l'esplanade Charles de Gaulle et je m'en vais à la rencontre du bus du Cœur des Femmes. C'est la deuxième édition à Rennes pour ce dispositif itinérant qui mène à travers la France une vaste opération de dépistage des maladies cardiovasculaires. À savoir que c'est la première cause de mortalité des femmes en France, tuant une femme toutes les 7 minutes. Bonjour.
Bonjour.
Pour beaucoup des femmes avec qui j'ai discuté, pour elles, c'est la première fois.
Oui, j'ai eu cette info par hasard.
C'est la première fois que je viens, j'avais déjà eu reçu par mail par rapport à ma mutuelle.
C'est une proposition qui a été faite par mon travail et du coup j'en ai profité parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de vérifier comme ça notre cœur et de faire des examens un peu plus poussés.
Si pour certaines c'est un simple contrôle, pour d'autres, elles ressentent déjà des symptômes.
J'avais du cholestérol et je supportais pas mon traitement et puis en montant les escalators par exemple, je suis essoufflée. Donc je trouve que c'est très bien d'avoir un bilan comme ça, si complet.
Tout autour du parcours de santé, il y a un village associatif où de nombreuses associations se sont donné rendez-vous. Et j'ai pu discuter avec l'une des bénévoles de la Maison des Femmes.
Il nous semblait important d'être là parce qu'on sait que finalement, une femme sur deux en fait, a subi des violences sexuelles ou sexistes pendant sa vie, son parcours. Faire connaître et aux professionnels de santé et aux partenaires, mais surtout aux femmes qui viennent là dans un parcours de soins, leur transmettre que cette maison existe, qu'elle peut être un lieu ressource, un lieu de vie pour elles, où elles peuvent avoir un suivi médico, psycho, social, juridique.
En me baladant sur le site, je suis tombée sur Aude Brunel, la co-organisatrice de la tournée bus du Cœur des Femmes.
Je suis là sur toutes les étapes. À la base, je suis chauffeur poids lourd et je conduis un des véhicules qui transporte le dépistage. Comme c'est un projet hyper intéressant, je me suis investie un petit peu plus et aujourd'hui, je suis sur l'organisation. Voilà. Mais lui, il va avoir des choses vachement plus intéressantes à vous raconter.
Très vite, elle me redirige vers Thierry Drillon, le cofondateur d'Agir pour le Cœur des Femmes. Et il m'a expliqué l'importance de ce rendez-vous.
Je vais vous donner trois chiffres. 2, 33, 200. 2, c'est le nombre de femmes qui malheureusement tous les jours en France décèdent d'un accident de la route. 33, c'est le nombre de femmes qui malheureusement tous les jours en France décèdent d'un cancer du sein. Et 200, c'est le nombre de femmes qui malheureusement tous les jours en France décèdent du cœur. Ce qui en fait la première cause de mortalité des femmes en France. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé Agir pour le cœur des femmes, de façon à adresser cette urgence à la fois médicale et sociétale, pour faire en sorte que, eh bien, on puisse faire de la prévention en action. Parce que la bonne nouvelle, c'est que dans 80% des cas, on peut éviter à ces femmes de rentrer dans la maladie par de la prévention positive, bienveillante et efficace, comme nous le faisons ici à Rennes aujourd'hui.
Mais pourquoi les femmes sont-elles autant touchées ? Pour lui, quatre facteurs sont à l'œuvre.
D'abord, c'est lié à l'épidémiologie des femmes. Les femmes ont des artères qui sont plus fines, plus sensibles à un certain nombre de choses comme la charge mentale. La deuxième raison, c'est que les femmes sont soumises à leur vie hormonale, que ce soit la contraception, la grossesse ou que la phase de préménopause, qui sont des phases de plus grande fragilité d'un point de vue cardiovasculaire. La troisième chose, c'est que les femmes ont par tendance à s'occuper plus des autres que d'elles-mêmes, c'est-à-dire s'occupent de leur mari, leurs enfants, leurs parents et de leur environnement. Le quatrième point, c'est que les symptômes chez les femmes sont partiellement différents par rapport aux hommes. Une femme qui fait preuve de fatigabilité à l'effort, qui est crevée, qui a l'impression qu'elle est essoufflée dès qu'elle marche trois marches, qui a des troubles œsophagiens ou qui éventuellement a des migraines, eh bien on aura tendance à lui dire de prendre un Doliprane et de se reposer, sauf que c'est exactement la même chose et c'est la maladie qui se met en place. Les maladies cardiovasculaires touchent toutes les femmes, les plus jeunes comme les moins jeunes.
Le bus reste jusqu'à demain soir. Une centaine de professionnels de santé sont là pour vous accueillir, vous guider et vous écouter. Le parcours dure 2 heures, ce qui se ferait en médecine de ville sur 18 mois. Il vous suffit juste de vous inscrire.
Et je pense que je reviendrai une prochaine fois, quand ça reviendra. Voilà.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
C'était le 20 mai dernier, des étudiants, étudiantes membres de l'épicerie gratuite de Rennes 2 ont fait le déplacement jusqu'à l'Assemblée nationale à Paris pour des temps d'échange avec des députés au sujet de la précarité alimentaire étudiante. Elio et Gwen les ont suivis et elles en ont profité pour questionner les personnes concernées.
Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, la précarité étudiante ?
Je sais que c'est un vrai truc, que les gens n'ont pas toujours de quoi se nourrir de manière générale.
Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler.
Je les vois, les gens qui sont obligés de voler au Crous, qui ne mangent pas le midi parce qu'ils se disent « je mangerai un grand repas ce soir » ou je sais pas quoi.
Même un grand nombre d'étudiants qui ratent des repas pour économiser le plus possible.
Même avec la bourse, c'est vraiment compliqué quand même.
Est-ce que vous connaissez d'autres mesures qui permettraient de réduire un peu la précarité étudiante ?
Le Crous, ça peut jouer beaucoup, genre la nourriture. Il faut voir les critères de la bourse aussi.
Les amis qui vont dans des boulangeries, ils disent oui, est-ce que vous avez des choses à jeter, sinon je les prends.
Bah en vrai, le communisme, je pense, c'est une bonne idée. Simplement.
Azriel est bénévole à l'épicerie gratuite de Rennes 2 depuis plusieurs mois.
L'épicerie gratuite, c'est une association étudiante qui a été créée il y a 6 ans avec différents buts.
C'est avoir des denrées alimentaires entièrement gratuites pour essayer de lutter contre la précarité, même si c'est pas forcément ça qui va tout faire, mais déjà ça permet à certaines personnes de pouvoir s'alimenter sans avoir à trop payer et du coup d'avoir plus de moyens pour payer leur loyer ou même juste genre leurs affaires pour les cours ou leurs loisirs un peu à côté.
Comme Azriel, une dizaine d'étudiants membres de l'épicerie se rendent mardi 20 mai à l'Assemblée nationale.
Du coup, on va essayer de parler un peu avec les députés, d'abord de se présenter et après d'avoir des discussions un peu plus informelles. On a du coup 3 grosses revendications, c'est le SSA, le repas à 1 euro et le revenu universel étudiant. Le repas à 1 euro est déjà passé à l'Assemblée, il faut encore qu'il soit accepté au Sénat. Donc c'est déjà un début, mais en fait c'est pas tout.
3 revendications qui s'inscrivent dans un objectif plus global.
Le but, c'est de présenter un peu aux députés ce que ça peut être la vie de tous les jours quand on est précaire et que du coup ils puissent essayer de faire des lois qui soient un peu plus en adéquation avec la réalité. Aussi informer les journalistes, parce que forcément l'information elle passe beaucoup par les médias, même si nous on peut essayer de faire ce qu'on peut par nos petits réseaux sociaux et tout, ça n'a jamais autant d'impact que les grands médias.
On a eu une petite visite de l'Assemblée nationale, voilà, avec la collaboratrice de Monsieur Lahaye, le député qui nous a accueillis aujourd'hui.
Alexia, salariée chargée de mission de la vie associative de l'épicerie gratuite de Rennes 2, raconte l'après-midi passé à l'Assemblée nationale. Avec Capucine en service civique, elles ont monté ce projet.
Ensuite, à partir de 15h30, les députés ont commencé à entrer dans la salle. Et nous, avant ça, on s'est installés. Donc on avait prévu des affichages, des flyers avec des chiffres, de la documentation et des diapos, en fait, pour présenter notre asso. Et donc il y a 3 députés notamment qui étaient attendus, donc Jean-Claude Rau, Boris Tavernier et Tristan Lahaye. Et donc après il y avait des attachés de presse et des bénévoles de l'association ont présenté l'asso et ce qu'on vivait, ce qu'on faisait concrètement. Et ensuite on est passé sur une heure de temps d'échange. Donc voilà, les échanges ont fusé, c'était très intéressant.
Et qu'est-ce qui en est ressorti?
On venait pas là pour chercher une réponse, donc il n'y a rien qui est ressorti là, qui vient dans ma tête. Mais juste en fait, ça fait du bien d'être soutenu. On a eu des échanges avec des gens qui nous comprennent et qui nous apporte un soutien et qui s'intéresse, et c'est ça qui fait du bien. La seule frustration qui est commune à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, c'est qu'on devait parler de certaines revendications qu'on n'a pas pu trop développer parce que les échanges se sont déroulés au fur et à mesure de ce qui se disait et on n'avait pas trop la main sur ça.
Une frustration qui est partagée par la majorité.
Voilà, c'était compliqué parce que du coup on sortait de notre expérience pour partir sur un peu un projet politique qu'on n'avait pas, quoi.
Ouais. Et c'est pas notre rôle.
Moi je sais pas si c'est pas notre rôle parce que ça pourrait être un lieu de discussion et de réflexion politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à l'épicerie. Et moi je pense que c'est bien aussi d'avoir un retour d'expérience de leur part, je trouve ça bien dans l'échange en fait.
On a perdu un peu les fils directeurs de notre visite. Je pensais qu'on allait plutôt négocier avec les députés pour voir des nouvelles perspectives, avec les étudiants, avec notre association.
On n'a pas eu le temps de développer ce qu'on pensait. Et en même temps effectivement on parlait à des députés qui sont concernés, qui ont œuvré pour ça. Donc je pense qu'ils connaissaient les limites parlementaires du truc.
Ce serait bien que ça se pérennise et qu'il y ait des députés d'autres bords.
Moi je m'attendais exactement à ça. C'est juste qu'on est dans 2 réalités différentes. Et ce que j'ai trouvé finalement cool, c'est qu'on a mélangé nos 2 réalités. Et au final, on a eu une discussion autour de nos 2 réalités, quoi.
Mais Alexia, elle, reste positive.
Maintenant qu'on a les contacts qui nous ont identifiés, on aura d'autres occasions, je pense, pour organiser des temps d'échange plus spécifiques sur certains points.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
Enora est allée au collège Rosa Park de Villejean la semaine dernière, un collège dont l'annonce de la fermeture vient d'être faite par le département. On écoute.
Je suis devant le collège de Rosa Park, à Villejean, situé juste derrière la dalle Kennedy. Le monde commence à arriver et parmi elles et eux, je rencontre Anaïg, une habitante du quartier. Depuis qu'elle est là, c'est déjà 2 collèges qu'elle a vu se fermer.
Après avoir vu fermer la Harpe et Malifeux, où j'enseignais d'ailleurs, maintenant il s'agit de Rosa Parks. Cette année, ce sera la 6e qui doit partir, l'année suivante, 5e, 4e, voilà, 3e. Et donc, ce qui veut dire une classe par année, donc en 2030, il n'y a plus. Rosa Parks a vraiment fermé définitivement. J'ai du mal à comprendre.
Pour Sophie Olivier, secrétaire départementale de la CGT Éducation, leur parole n'a pas été écoutée.
J'ai suivi toute la pseudo-concertation du conseil départemental. On s'est senti un peu piégé aussi dans ces réunions où, de toute façon, le conseil départemental, depuis très 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 longtemps, moi ça ne fait que 12 ans que je suis à Rennes, mais la situation des collèges de Villejean a évolué négativement depuis de très longues années, et la volonté du conseil départemental est de fermer ce collège. C'est évidemment qu'elle n'est pas affichée, mais c'est sous-entendu dans beaucoup de leurs actions.
À la rentrée prochaine, les élèves de 6e devraient se rendre au collège de Passé. Et peut-être que d'ici quelques années, un nouveau collège sortira de terre dans le quartier de Borgard. Mais ces solutions ne pallient pas à l'inquiétude des parents et de leurs enfants. Et pour Quentin, animateur social à l'association Sion Saliès, située sur Adèle Kennedy, la mixité sociale avancée n'est qu'un prétexte.
On se dit que là, le fait de demander aux élèves de partir à Passé ou à Borgard, ça pousse toute une partie de la population, la jeunesse et les familles, du coup, à s'excentrer par rapport à la grande place publique qui était la dalle Kennedy jusqu'à présent. Nous, c'est une question de rejeter un peu cette logique-là, de juste demander aux plus pauvres de toujours partir sous prétexte de mixité sociale, parce que autant la mixité sociale, c'est une chose, autant c'est jamais aux riches de venir dans les quartiers, c'est toujours l'inverse.
Derrière la fermeture de ce collège, c'est l'avenir du quartier qui est en jeu.
Alors c'est triste, et il ne faut pas, parce que le quartier va perdre son âme finalement. Parce que ses enfants, c'est aussi l'avenir de Rennes, de Villejean d'abord, de Rennes ensuite.
La vie du quartier, elle se meurt petit à petit, il y a de moins en moins de commerce, de moins en moins de passages, etc. C'est une question de soit on fuit le quartier et il ne se passe plus rien, soit on décide qu'il faut rester ici, occuper l'espace, montrer qu'il y a de la vie pour juste redynamiser le quartier. On a toujours moyen d'infléchir les décisions politiques, parce qu'au dernier moment, c'est toujours les politiques qui décident, du coup les élus. Et notamment là, il y a les élections municipales qui arrivent l'an prochain. L'idée, c'est aussi de se dire qu'on peut peut-être pousser un peu la majorité en place pour leur dire qu'à un moment donné, s'ils veulent aussi les voix des gens, il faut faire des efforts, entre guillemets.
Il est à peine 14h, la marche s'amorce. En tête, quatre personnes portent un caveau, sur lequel une image de Rosa Parks dans son bus a été collée, et une vignette. Quand on s'appelle Rosa Parks, on ne cède pas.
Nous avons fait un rêve. Nous avons fait le rêve de pouvoir exercer notre métier dans des conditions décentes et acceptables. Nous avons fait le rêve que l'éducation nationale française apporte le même enseignement à tous les élèves, sans distinction de catégorie sociale, de couleur de peau ou de religion.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Jeudi dernier, plus de 1000 voix se sont élevées contre la loi Duplomb dans le centre-ville de Rennes. Une riposte à une loi jugée dangereuse et rétrograde pour celles et ceux dont Enora a recueilli le témoignage.
Allô ? Donc, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis Stéphane Gallet, donc porte-parole de la Conf Paysanne Nationale. On est tous présents ici pour dire notre opposition à la loi Duplomb, pour dire que non, tous les agriculteurs ne sont pas en soutien à cette proposition de loi. Nous, les paysans et les paysannes de la Confédération Paysanne, on y est particulièrement opposés. On est opposés à cette loi mortifère parce que son intention, on le sait tous et toutes, c'est de concentrer les fermes pour plus de compétitivité et faire disparaître les paysans dans les campagnes.
Je suis Simon, je suis adhérent à la Confédération Paysanne et aujourd'hui on est là contre la loi Duplomb qui a été vraiment dictée par la FNSEA et qui promeut l'agriculture intensive, l'agro-industrie, à travers l'autorisation de pesticides qui sont aujourd'hui interdits, la facilitation de construire des méga-bassines, des bâtiments aussi d'élevage intensif. C'est les trois points qui sont dans la loi et qui risquent de passer prochainement.
Bonjour, moi c'est Swazik Lebon, porte-parole de la Confédération Paysanne Régionale.
Il y a 13 signataires à l'appel à manifester aujourd'hui, 13 associations environnementales, citoyennes et paysannes, et on attend le maximum de monde.
Pour défendre les idées et valeurs auxquelles on croit.
Moi je travaille dans une ferme.
Une paysanne d'aujourd'hui.
Et du coup, nous dans l'esprit, enfin, Au niveau de la structure, c'est à taille humaine, on essaie de faire du local, d'être intégré dans le territoire, quoi. Et puis de prendre soin de nos animaux, de la terre.
Je suis là pour ma fille.
Une maman.
Qui est maraîchère dans le Morbihan. Et pour son compagnon qui est aussi maraîcher à Sarzeau, qui cultive des petits fruits.
Et du coup, de faire un retour en arrière comme ça, sur un poison, clairement.
La loi du plomb, c'est plus qu'un retour en arrière, parce que c'est non seulement réautoriser des substances dont on sait qu'elles sont potentiellement dangereuses, et je pèse mes mots quand je dis potentiellement, mais c'est même en introduire qu'on n'avait pas encore utilisé.
Une militante écologiste.
Nous, c'est essentiel d'être là, parce que depuis tout le temps, on milite pour une agriculture qui soigne les personnes et pas qui les empoisonne.
Bah nous, on avait porté, pendant le moment de la loi d'orientation, des revendications assez fortes.
Stéphane Gallet, porte-parole nationale de la Confédération Paysanne.
Sur la répartition du foncier, sur la régulation des marchés par exemple, faire en sorte qu'il y ait une répartition de la valeur dans les filières. Voilà. Et puis les prix minimum garantis, c'est quelque chose qu'on avait porté aussi pendant le salon de l'agriculture. Donc on continue à porter ces revendications-là. Et puis il y a une revendication forte, c'est de permettre, au travers notamment des lois foncières, mais pas que, à travers aussi de lois qui favorisent la transmission, permettre l'installation des jeunes paysans et paysannes.
Tant qu'on bloquera sur ce problème du foncier, on aura beau traiter tous les autres problèmes, on ne bougera pas.
Une paysanne de la fin des années 1960.
Est-ce que vous avez quand même espoir ?
J'en sais rien. Je voudrais bien. Je voudrais bien. Mais j'ai l'impression depuis plus de 50 ans, là, on fait du surplace.
Alors, petite info, les tracteurs vont faire demi-tour pour partir dans le bon sens.
Moi, j'ai voté contre la loi, oui, effectivement.
Tristan Lahaye, député Génération d'Ille-et-Vilaine.
C'est pas une journée, hein, c'est vraiment des jours et des jours de discussion, de bataille article après article, amendement après amendement. Que voulez-vous, il y a un accord implicite entre le gouvernement et l'extrême droite. Je crois que Bayrou tient plus par-dessus tout à son poste, quitte à sacrifier toutes ses valeurs et le minimum de conscience écologique qui existait encore dans le bloc central au profit de la stabilité politique, vaille que vaille.
Vous allez continuer à vous battre ?
Bien sûr. Après, vraiment, en ce moment, c'est qu'on a à se battre sur mille fronts, sur les questions migratoires, sur les questions relatives à la retraite, sur les questions relatives à l'écologie, on ne manque pas de sujets, donc on se bat dans l'hémicycle, dans la rue, autant que nécessaire.
Notre-Dame-des-Landes, si ça a été arrêté, c'est parce qu'il y avait à la fois des individus, des collectifs, des agriculteurs, des paysans, des habitants et des militants politiques qui se sont bougés. Et c'est la convergence de ces actions, un peu sur le long terme, qui a fini par aboutir. Il y a toujours de l'espoir de faire changer les choses. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera plus tard.
Avant minuit.
Ce dimanche 22 juin, Marilyn était au Blône, au stade Robert Salengro, pour la Coupe d'Afrique des Nations de Rennes. Un tournoi sportif et festif devenu un rendez-vous incontournable, soutenu cette année par le stade Rennais. À son micro, Evan Le Gall, joueur sur le terrain, Marie Beauregard, supportrice fidèle, Marie Mesmer, députée rennaise et commissaire aux affaires culturelles. Tous reviennent sur ce que représente ce tournoi pour eux.
Depuis le 17 juin, les différents athlètes de la Coupe d'Afrique des Nations de Rennes n'ont qu'un seul but, se qualifier pour la finale de leur catégorie. Evan Le Gall, ancien joueur de l'US Concarneau et international ghanéen U20, nous explique en quoi participer à ce tournoi l'aide à gagner en expérience en tant que joueur.
Déjà, c'est une bonne expérience de venir pendant les vacances, on retrouve les amis. Il y a aussi l'esprit de compétition, ce qui nous manque en tant que footballeur. Il y a un moment, il y a une trêve, donc là on retrouve un peu l'esprit de compétition sans vraiment avoir du sérieux. C'est aussi l'occasion de représenter une nation, donc ça peut être aussi un grand plaisir. Il y a du monde qui vient voir, ça met de l'ambiance, c'est un bon événement à Rennes. Et ça maintient en forme aussi. Moi je dirais plus c'est comme un peu une reprise, c'est comme une préparation avant la saison de foot qui arrive, pour les footeurs en tout cas. Et donc ça match en forme et c'est comme un mini championnat. Et en tout cas, c'est grand plaisir.
En discutant avec le très occupé Herman Chamba, le promoteur de cet événement, il me présente Marie-Pierre. Elle ne rate jamais une édition de la CAN de Rennes. Toujours souriante, toujours présente dans les tribunes, elle fait partie des figures emblématiques de ce tournoi. Aussi surnommée Marie de Beauregard, elle prend le temps de me raconter son rapport à cet événement sportif et culturel.
Alors, la CAN de Rennes, je l'ai suivie l'année dernière, j'étais pas l'année avant, 2022 déjà. Ce qu'il y a sur la CAN de Rennes, c'est la diversité des nations. Et puis, c'est le vivre ensemble, parce que je trouve que ces gars-là, ils veulent gagner. Et en fin de compte, on le sent chez eux, ils nous le montrent. Et pour moi, c'est important le vivre ensemble. Pour moi, stop à la violence sur les stades. Depuis que je suis là, je n'ai jamais vu de violence. Jamais. Et ça, c'est important pour moi.
En marge du quart de finale opposant la RDC et la Guinée, j'aperçois plusieurs écharpes tricolores dans la foule. Marie Mesmer, députée de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, est accompagnée de ses collègues Ali Diouara et Carlos Martens Bilongo, venus pour la kermesse populaire qu'elle organisait plus tôt dans la journée. Elle nous parle de ce que représente le tournoi pour la ville.
Je suis venue aujourd'hui avec deux collègues députés, Ali Diouara et Carlos Martens Bilongo, qui sont venus profiter de l'ambiance de la CAN de Rennes qui rayonne partout, avec ce nombre d'équipes qui est vraiment immense, et tous ces supporters là qui nous mettent une ambiance, le DJ aussi qui est là, le speaker, enfin voilà. C'est un moment qui est fabuleux, c'est la deuxième année que je viens, et à chaque fois on a droit à un sport de qualité, avec énormément de monde autour qui viennent soutenir et qui mettent une ambiance fabuleuse. Donc voilà, merci de faire rayonner Rennes. Le foot, ses valeurs, on est ensemble.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Jeudi dernier, dans le quartier Borgard à Rennes, la Trick Troc mobile du groupe Suez s'est installée au pied des immeubles. Objectif, permettre aux habitants et habitantes de déposer ou récupérer des objets en bon état et les sensibiliser au réemploi. Parmi les visiteurs et visiteuses, une classe de CE2 CM1 de l'école Jeanne d'Arc découvre le tri autrement, en posant des questions, en repartant parfois avec un livre ou un sourire.
Des cris, des rires et au milieu, des conteneurs violets, pas un tournage de film, une déchetterie mobile. Bienvenue à la Tritroc mobile, la version ludique de la déchetterie. Les enfants manipulent, testent, prennent les commandes et quand on leur demande pourquoi ils sont là et ce qu'ils ont appris, ça donne ça.
Bah on vient apprendre à trier les déchets.
C'est que des fois on avait l'impression que ça allait là, mais en fait pas du tout. C'est juste qu'on allait trop vite et du coup on triait mal.
Quel est l'intérêt de trier les déchets au-delà de moins polluer la planète?
Pour les recycler et pour que d'autres gens les utilisent après.
Pour que ça soit transformé en autre chose.
Moi, j'avais pas l'impression que du plastique, ça pouvait se transformer en robe, par exemple, ou en t-shirt.
Moi, j'avais l'impression des fois qu'on ne pouvait pas recycler ça et on peut le recycler, en fait.
Moi, je savais pas que les conserves, ça pouvait se transformer en vélo.
Car demain, ce seront eux, les trieurs en chef. Olivier Vallet, du groupe Suez, supervise les animations.
Donc, nos agents valoristes accueillent les enfants avec trois modules différents. Donc un module où les enfants apprennent et lisent et se questionnent sur les pratiques de gestion des déchets et ce qui est fait à Rennes Métropole. Ensuite un module de jeu pour apprendre par l'activité, renforcer l'apprentissage. Et ensuite ils découvrent concrètement le dispositif, donc le caisson de troc, donc les objets qui peuvent être apportés, qui peuvent être récupérés, le caisson tri, donc pour savoir tout ce qu'ils peuvent apporter comme déchets ultimes. Et enfin, il ne faut pas se le cacher, les enfants aiment bien découvrir le matériel, les camions poids lourds électriques, ce n'est pas des camions qu'on voit régulièrement dans la ville.
Et pour Laurent Hamon, vice-président de Rennes Métropole, l'objectif est simple, aller au plus près.
Donc, Rennes Métropole a souhaité installer une déchetterie mobile qu'on appelle la Tritroc mobile, qui circule de quartier en quartier, permet aux habitants de mieux gérer leurs encombrants, leurs déchets qu'ils ont, et de favoriser à la fois un meilleur geste de tri et à la fois le don, la réparation, et donc d'avoir une déchetterie qui vient en proximité dans son quartier, au plus près de chez soi.
Ici, on ne jette pas, on échange, on apprend. Pour cela, la ville mise sur la proximité.
Pénélope Leroux-Alézio, responsable du pôle des déchets et relations aux usagers de Rennes Métropole, explique.
Ce qu'expliquait Laurent Hamon, hein, toutes les 3-4 semaines, on change de quartier. Et donc là, on est typiquement on vient en proximité. Et on a proposé aux écoles de venir aujourd'hui.
Et ce jour-là, les enfants sont au centre, ateliers, quiz, jeux, mais aussi vrais camions, vrais déchets. La sensibilisation commence.
Ce qu'on espère en fait avec ces actions pédagogiques, c'est que les enfants, bien évidemment, soient mieux sensibilisés aux gestes de tri et à comment mieux gérer ses déchets. Et surtout, hein, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais c'est également à la maison de ramener auprès de leurs parents. Et de mieux expliquer également le geste de tri, de dire, bah voilà, moi à l'école, je suis allé voir la déchetterie mobile, et puis voilà ce que j'ai appris, et comment on peut mieux, finalement, progresser collectivement. Donc parents, enfants, habitants, en fait, c'est tous ensemble qu'on peut essayer de s'améliorer pour mieux gérer ses déchets.
La journée touche à sa fin, les camions s'en vont, les enfants aussi, mais eux repartent avec des sourires et peut-être l'envie de tout changer. Et si on leur laissait le mot de la fin ?
Bah, qu'il faut bien trier ses déchets, et si on ne trie pas, ça peut polluer la planète et c'est pas bien.
À Rennes, la Trick-Troc Mobile continue sa route, une escale après l'autre, et sur son passage, elle sème pour les enfants comme pour les adultes une autre idée de ce que jeter peut vouloir dire.
Si, la radio sauvage.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllabe. La radio sauvage.